Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On célèbre ce mois-ci, Brice, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Le mur de la honte, érigé pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir dans la partie occidentale de la ville, l'oppression et la misère qui faisaient régner le régime communiste. Ce fut le symbole de la coupure d'une nation, l'Allemagne, et au-delà de l'Europe elle-même, en deux alliances, politiques et militaires, sur le pied de guerre et prêtes à en découdre pendant plus de 40 ans. Ce n'était pas vraiment la fin officielle de la guerre froide, il restait plus de 100 000 soldats en RDA, mais tous ceux qui ont vécu ce moment historique sur place, en Europe centrale, comme c'est mon cas, se souviennent de l'extraordinaire euphorie ressentie alors. Certes, à la suite de la réunification de l'Allemagne démocratiquement réclamée au cours d'élections enfin libres, l'unification avérée des peuples européens interviendrait plus tard avec les élargissements de l'Union européenne de 2004 puis de 2007. Mais d'ores et déjà, l'Europe de l'Ouest avait compris qu'elle devait la fin de la guerre froide au soulèvement de ses frères séparés d'Europe centrale. Une affaire infiniment dangereuse s'achevait à la satisfaction générale.
Ah oui, Brice, parce qu'on l'oublie, mais le monde est passé d'ailleurs à plusieurs reprises tout près de l'enfer nucléaire.
Oui, ce fut le cas lors de la guerre de Corée. On s'en souvient, en 1950-51, le général MacArthur a réellement proposé d'utiliser des bombes atomiques. Mais aussi à la fin de 1962, lorsque les États-Unis découvrirent que les Soviétiques avaient installé des rampes de lancement destinées à recevoir des missiles dans l'île voisine de Cuba. Mais on a tendance à oublier combien dangereuse apparaissait la situation internationale au tournant des années 1970 et 80. Et cela est fort bien documenté dans un livre qui vient de paraître, « Histoire mondiale de la guerre froide », dû à un historien norvégien, Odd Arne Westad. Il rappelle que ce regain de guerre froide a commencé vers la fin de la présidence de Jimmy Carter. Au Nicaragua, les sandinistes avaient pris le pouvoir et les Américains redoutaient leur influence sur le Salvador. L'intervention de soldats cubains discrètement encadrés par des soviétiques dans des conflits en cours, 30 000 en Angola, 15 000 en Éthiopie, l'intervention de l'armée rouge elle-même en Afghanistan, avait convaincu ce président démocrate que, je cite, pèse des menaces extrêmement graves pour la paix, comme il le dit dans son dernier grand discours télévisé. Son conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, décrivait lui un arc de crise allant depuis la Corne de l'Afrique jusqu'au bord de l'océan Indien en passant par la mer Rouge. Et cette inquiétude des Américains face à une Union soviétique qui semblait partout à l'offensive fut l'une des causes principales de la victoire électorale du républicain Ronald Reagan. Les dépenses militaires avaient déjà considérablement augmenté lors de la dernière année du mandat de Jimmy Carter, mais elles vont exploser littéralement sous Reagan. Au début des années 1980, écrit à ce propos Westad, la guerre froide prend une allure extrêmement périlleuse, probablement plus qu'elle ne l'a jamais été depuis la crise des missiles de Cuba en 62. Car non seulement Reagan arme au Nicaragua les contras anti-sandinistes, mais il met un embargo sur une partie des exportations de gaz et de pétrole par lesquelles l'URSS finançait ses énormes emprunts alors en Occident. Il réplique à l'installation de missiles balistiques mobiles à trois têtes nucléaires, les fameux SS-20, en décidant l'installation en Europe de missiles à moyenne portée, les Pershing 2, et de missiles de croisière. Il lance son fameux projet extravagant d'un bouclier antimissile à base de laser déployé dans l'espace. Mais en septembre 83, alors que l'inamovible dirigeant suprême de l'URSS, Leonid Brezhnev, est mort l'année précédente, l'armée de l'air soviétique abat un avion de ligne sud-coréen égaré dans son espace aérien. À bord, 61 citoyens américains, dont un membre du Congrès. Reagan vient à la télévision dénoncer, je cite, un crime contre l'humanité, et juste après, on frôle réellement la guerre lors des manœuvres de l'OTAN dites Able Archer 83. Elles simulent l'escalade d'un conflit est-ouest jusqu'aux premières frappes nucléaires. Moscou, mal informé, place sa flotte aérienne en état d'alerte. On est à la merci d'une erreur d'interprétation tragique sur les intentions réelles de l'adversaire. Et pourtant, s'il en suit bien Westad, c'est ce même Ronald Reagan qui va entamer la désescalade. D'un tempérament optimiste, Il est persuadé de la supériorité technologique des États-Unis. Il déteste personnellement l'arme nucléaire. Et lorsque Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique en 1985, eh bien, ces deux hommes vont s'entendre pour réduire à la fois les dépenses consacrées aux armements et le soutien au mouvement visant à déstabiliser l'autre à l'étranger. C'est la dernière étape de la guerre froide, celle qui mènera à la paix à travers la dissolution du pacte de Varsovie.